C'est bon? Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous aux facultés Loyola de Paris. Bienvenue pour cette soirée autour d'Albert Camus, du Christ et de Véronique Albanel. Véronique, tu es assise entre le Christ et Camus ce soir. Alors merci à tous de nous rejoindre, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont avec nous par écran interposé. Et puis je remercie d'ores et déjà nos deux invités qui ont accepté de prendre la parole ce soir. Donc on va lancer les affaires tout de suite. Donc je propose à Laurent Bove qui va parler en premier de lancer le feu. Laurent, je vous présente brièvement. Donc vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université de Picardie à Amiens, président de l'Association des Amis de Spinoza. Vous êtes aussi donc un spécialiste de Spinoza, mais aussi apparemment un connaisseur de Camus. C'est à ce titre-là que vous êtes avec nous ce soir. Vous avez écrit un ouvrage en lien direct avec notre soirée, Albert Camus, de la Transfiguration, publié dans la collection Philosophie à l'œuvre aux publications de la Sorbonne. Et vous avez aussi publié un autre livre qui a un rapport avec notre soirée, contrairement à ce que le titre indique. Peter Bruegel, le tableau ou la sphère infinie, pour une réforme théologico-politique de l'entendement. Alors, il paraît que vous auriez pu appeler ce livre « Le Christ de Bruegel ». Voilà. Donc, voilà le livre en question. Donc, Laurent, je vous donne la parole.
Dans le micro. Bien, je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie également les organisateurs de cette soirée. Je remercie également les organisateurs de cette soirée pour leur invitation pour parler du beau livre de Véronique Albanel. En effet, le projet du livre de Véronique Albanel est de traiter de la place et de la signification de la présence de la personne du Christ dans l'œuvre d'Albert Camus. Et il s'agit bien de réfléchir avec justesse et justice à une place et à une présence, puisque c'est non seulement un rôle central que vous attribuez au Christ chez Camus, mais vous insistez aussi sur la centralité de sa personne et de sa présence à travers des images, des personnages, des notions, comme le Christ de la flagellation et le Christ de la résurrection de Piero della Francesca, que Camus commente dans Nos, comme le personnage de Meursault dans L'étranger, cet anti-héros ou ce héros de l'absurde que le juge nomme Monsieur l'Antéchrist, et dont Camus dira « c'est le seul Christ que nous méritions », ou la mère de Jacques, c'est-à-dire de Camus lui-même, dans Le premier homme, roman à dimension autobiographique, « Sa mère est le Christ », écrit l'auteur. Ce qui relie ces différentes figures du Christ, c'est, dites-vous, un discret fil rouge, celui de la vérité, sobre et digne. Mais c'est aussi en écho à certaines notions récurrentes que le Christ est présent dans l'œuvre, des notions qu'il évoque directement ou indirectement, comme par exemple les notions de transfiguration ou de surabondance de la vie. À propos de cette surabondance, vous écrivez « La question est de savoir si le Christ fut, pour Camus, une source de consolation ou une force vivifiante et réparatrice. » À mon sens, cette force à la fois lumineuse et obscure, qu'invoquera également le personnage de Jacques dans les dernières pages du premier homme, nous renvoie à l'idée ou à l'esprit du Christ en tant que souffle, en tant que puissance de persévérance, une leçon que vous avez fort bien soulignée dans votre commentaire du tableau de la résurrection de Piero della Francesca, qui enseigne effectivement une puissante résolution à vivre. Camus introduit-il par là une transcendance dans son œuvre et dans sa vie, comme vous le suggérez à la page 129 de votre ouvrage, en référence à ce que disait le jeune écrivain dans son diplôme d'études supérieures à propos de la présence de l'un chez Plotin, à la fois transcendant et immanent à toute chose. D'autre part, ce Christ de Camus qui nous aide à vivre et à ne pas désespérer, nous aide-t-il aussi à espérer, comme on peut le lire sur votre quatrième page de couverture? Ce sont là des questions très importantes sur lesquelles il nous faudra nécessairement revenir, puisque Camus a clairement écrit dans Nos que toute la beauté du monde, je le cite, nous parle d'un Dieu qui n'existe pas et qu'il a procédé aussi dans le mythe de Sisyphe à une critique radicale et systématique de l'espoir, cette esquive mortelle, vous rappelez vous-même cette formulation, esquive mortelle que Camus tient pour la principale responsable de notre servitude et de la tristesse de nos vies. Ainsi enseigne-t-il l'exemple de l'homme absurde qui ne manque de rien, car cette vie le comble. L'homme absurde ignore ou repousse la tristesse et l'espoir, car précise le mythe de Sisyphe, il n'y a de tristesse que chez ceux qui ignorent et ou qui espèrent. Dans la conclusion de la seconde partie du mythe, intitulée « L'homme absurde », Camus écrit ainsi « Si le mot « sage » s'applique à l'homme qui vit de ce qu'il a, sans spéculer sur ce qu'il n'a pas, alors ceux-là, c'est-à-dire les hommes absurdes, sont des sages. » Ceci étant rappelé, ce qui est absolument certain, c'est que, comme vous l'écrivez, Camus voue une admiration indéfectible à l'égard du Christ et de son enseignement. Le Christ est pour lui un exemple de vie vraie, et Camus, je vous cite, « prend donc au sérieux le message de l'Évangile qu'il ne cesse de lire, et que cela ne peut qu'interpeller son lecteur, qu'il soit croyant ou non. » Et toute l'importance de votre propos va être de répondre à cette interpellation tout en respectant pleinement la position existentielle et philosophique de Camus, qui affirme explicitement son incroyance en refusant clairement les fondamentaux de la foi chrétienne. Ce qui ne saurait, dites-vous, être éludé ou négligé. Camus déclare en effet clairement qu'il ne croit pas en la résurrection du Christ. Mais il va cependant, dans ses écrits, redonner un sens éthique à l'idée de résurrection sous la forme récurrente de la renaissance, ce qui donne paradoxal à un Christ non ressuscité, mais qui se trouve pourtant en ce monde et en esprit au principe de toutes les renaissances. Camus ne croit pas non plus que l'âme humaine soit immortelle et que cette croyance en l'immortalité soit indissociable de l'existence même de Dieu. Tout en refusant l'immortalité de l'âme, et contrairement à ce qu'il a affirmé tout d'abord dans Nos et que j'ai cité, l'auteur du mythe de Sisyphe ne se prononce plus en effet sur l'existence de Dieu. Il écrit seulement que l'absurde qui est l'état métaphysique de l'homme conscient ne mène pas à Dieu. Et il précise, en note, je n'ai pas dit exclu Dieu, ce qui serait encore affirmé. Soit dire et croire au-delà de ce que nous pouvons véritablement penser ou savoir. Camus dissocie ainsi radicalement le lien vivant pour le chrétien entre la question de l'existence de Dieu, sur laquelle il ne se prononce plus, et l'immortalité de l'âme, qu'il refuse radicalement. Une note qui ne vous a pas échappé dans ses carnets de 1942, donc l'année même de la publication du mythe de Sisyphe, est en ce sens significative. Camus écrit « secret de mon univers, imaginez Dieu sans l'immortalité humaine ». Vous écrivez à ce propos qu'il s'agit d'une étrange confidence. Effectivement, je suggère cependant une piste pour éclairer, sinon pour résoudre, cette étrangeté. On rencontre quelques pages plus loin dans les mêmes carnets Au cours donc de la même année 1942, une très longue note d'Albert Camus sur sa lecture de la partie 1 de l'éthique de Spinoza. Note que vous signalez, mais dans un tout autre contexte, quand vous traitez des tensions de la mystique solidaire et de l'écartèlement tragique. De la référence camusienne à Spinoza, vous retenez alors le Dieu et l'univers inhumain à souhait. Je cite Camus. Hein. Et la conclusion de Camus, c'est un monde pour le courage. Or, on trouve peut-être là, dans cette note sur l'éthique, l'explication du secret de l'univers de Camus et d'un Dieu qu'il imagine indépendant, voire incompatible avec l'immortalité de l'âme et corrélativement l'espoir en cette immortalité. Un Dieu que l'on peut donc imaginer, mais non pas concevoir, comme l'a prétendu Spinoza, et Camus rejette de son point de vue ce rationalisme absolu. Mais un Dieu, si l'on souhaite poursuivre le parallèle avec le Dieu spinoziste, un Dieu indépendant de la question de l'immortalité. Un rejet de l'immortalité qui n'est pas cependant incompatible, bien au contraire, avec l'expérience humaine de l'éternité, comme on pouvait le lire chez Spinoza, mais comme on peut le lire aussi chez Albert Camus, dans L'envers et l'endroit, qui est son premier écrit publié. Camus écrit en effet « Et quand donc suis-je plus vrai que lorsque je suis le monde ?» Je suis le monde, il le souligne en italique, et il poursuit « Je suis comblé avant d'avoir désiré, l'éternité est là, et moi je l'espérais. Ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d'être conscient. » Comme Spinoza, Camus, qui refuse l'immortalité, pense donc la vérité de l'éternité comme présence et expérience au présent. Une éternité au cœur même de la finitude, lorsque le « je » s'identifie en pleine conscience à la réalité du monde, dans une sorte de sentiment panthéiste au sens large. Notons une indication importante dans la préface en 1959 de la réédition de L'envers et l'endroit. Camus reconnaît qu'il a d'abord fait du monde divinité. Il est vrai que tout au long de l'œuvre, Camus ne cesse pas de rejeter tout ce qui est de l'ordre de l'éternel, mais ce rejet n'est pas celui de cette éternité que Nietzsche avait appelé l'éternelle vivacité du présent, dont Camus fait au contraire l'éloge, comme vous le signalez, une éternelle vivacité que l'on peut donc placer au principe devenu christique chez Camus de la transfiguration et de la surabondance de la vie. Avant même de revenir de manière plus précise sur la question de l'un et de la transcendance que vous évoquez à propos des traces mystiques chez Camus, en regard d'un probable héritage plotinien, je pense donc qu'il faut aussi intégrer dans notre réflexion ce que le néoplatonisme est devenu dans la double filiation que Camus entretient avec Nietzsche, mais aussi avec Spinoza. Dans cette perspective d'histoire de la philosophie, on ne peut être qu'entièrement d'accord avec vous quand vous affirmez que malgré tout, premièrement, il est impossible de christianiser Camus, et deuxièmement, que si l'on peut déchiffrer chez lui une certaine mystique, il n'est cependant pas question, je vous cite, de faire de Camus un mystique. Alors, comment aborder et interpréter l'œuvre d'Albert Camus ? Je crois qu'on peut lire l'écrivain philosophe à partir de ses grands textes, L'étranger, Le mythe de Sisyphe, La peste, pour ce qu'on appelle le cycle de l'absurde. Puis, l'on aborde le cycle de la révolte, essentiellement avec L'homme révolté. Et enfin, le cycle inachevé de l'amour, avec le texte inachevé du premier homme. Ou bien, on peut débuter par les tout premiers écrits, L'envers et l'endroit et Noces. Selon ces deux entrées, c'est le déchirement de l'absurde et le sens de la révolte qui vont dominer, ou bien, si l'on part des toutes premières œuvres, c'est plutôt l'amour de vivre, la beauté du monde, des corps, ce qu'il appelle les noces avec le monde. Et donc une certaine forme de panthéisme qui seront ici retenu. Par panthéisme, je le précise, c'est l'emploi au sens très très large, soit qu'une certaine divinisation du tout en tant que monde, en tant que nature. Alors, vous avez décidé, quant à vous, de débuter par la douleur. Un fil rouge que vous allez suivre et tenir à travers toute l'œuvre. C'est une entrée singulière, à la fois originale et extrêmement éclairante. Car le corps douloureux est aussi bien pour vous celui de l'auteur, Albert Camus, dont vous rappelez la maladie qui le frappe dès l'âge de 17 ans, que le corps supplicié du Christ, dont Camus parle à travers de multiples figures vivantes dans lesquelles s'incarne cette souffrance. Cela vous permet de valoriser les notions de chair et d'incarnation. L'incarnation, car c'est dans et par son corps vivant et souffrant que Camus pense et construit son œuvre. Ce qui explique que pour vous, Camus peut comprendre un artiste, dans son corps et par son corps, la vérité profonde du christianisme. Soit l'histoire d'une divinité singulière qui se laisse totalement affecter par la douleur humaine. Mais Camus, qui ne croit pas en la résurrection et à l'au-delà, va arrêter cette histoire au supplice et à la mort sur la croix, faisant ainsi du Christ un héros absurde. Et puis, il y a la chair avec ses différentes significations. La chair meurtrie, mais aussi la chair résistante, également la vérité vivante de la chair opposée aux abstractions mortifères, et parmi ces abstractions, pour Camus, l'idée de l'âme elle-même, quand on croit pouvoir la détacher du corps vivant. Et puis, il y a la communication de la chair dans la douleur. Cette dernière signification vous permet de souligner que c'est dès les débuts de l'œuvre que Camus a rencontré la douleur comme lieu de la solidarité entre les hommes. Vous rappelez qu'il a lu le livre d'André de Michaud, intitulé « La douleur », alors qu'il vient d'apprendre qu'il est atteint de tuberculose. On pourrait vous objecter que le thème de la douleur solidaire, s'il est effectivement présent aux origines de l'œuvre et de la vie même de Camus, que ce thème s'estompe comme thème principal dans les œuvres dites du cycle de l'absurde, pour ne véritablement réapparaître que dans La Peste. On pourrait remarquer aussi que la figure du Christ au début des années 40 est encore chez Camus celle d'un héros solitaire. C'est ainsi qu'il écrit dans ses carnets « Arrachons les dernières pages de l'Évangile et voici qu'une religion humaine, un culte de la grandeur et de la solitude, je souligne bien ce que dit Camus, et de la solitude, nous est proposé. » Vous citez d'ailleurs ce texte, la page 17. Cette objection n'est cependant qu'en partie pertinente, car si le thème de la douleur, corrélé à la solidarité humaine, n'est pas le thème philosophique principal dans les écrits du cycle de l'absurde, on peut pourtant montrer, et cela en phase avec votre propre thèse, non seulement le rôle que joue la douleur morale dans ses œuvres comme Le Malentendu ou Caligula, mais aussi en filigrane, la communication de la chair solidaire, là, dans ce cas, qu'elle implique, comme lorsque, pourtant accusé d'insensibilité et d'indifférence envers ses semblables, et faisant preuve dans sa persévérance dans la vérité de solitude et de grandeur, le personnage de Meursault, dans L'Étranger, durant son procès, ce personnage, donc l'étranger, vient généreusement au secours, c'est l'épisode du concierge de l'asile de Marengo, qui est venu témoigner contre lui. Je rappelle très brièvement cette situation, assez peu commentée, qui relève la nature éminemment christique et solidaire, et non plus solitaire, de ce personnage Meursault. Le concierge de l'asile vient témoigner contre lui, en déclarant que Meursault a délibérément fumé face au cercueil de sa mère. Et ce témoignage soulève une telle indignation dans la salle que Meursault confie que pour la première fois, il a compris qu'il était coupable. Mais l'avocat de Meursault réplique aussitôt en demandant au concierge s'il n'a pas lu avec Meursault. Le vieux est alors totalement déstabilisé et très embarrassé. Et alors que ce témoignage du concierge a été pour lui à charge, Meursault intervient. Il prend l'initiative de venir au secours du vieil homme. Il déclare « Le témoin a raison. Il est vrai que c'est moi qui lui ai offert la cigarette. » Peu importe que le concierge soit venu un ennemi, Meursault est affecté par son embarras et son émotion et spontanément, il tente de le sauver. C'est le moment merveilleux de la grâce, de la vérité, de la solidarité spontanée des hommes dans la douleur et dans la misère. Je cite, « Le concierge m'a regardé alors avec un peu d'étonnement et une sorte de gratitude. Il a hésité, puis il a dit que c'était lui qui m'avait offert le café au lait. » C'est le moment où la nature christique de Meursault se révèle avec le plus d'évidence, comme dans cet autre moment essentiel qui a précédé le crime, quand Meursault ôte le revolver des mains de Raymond pour l'empêcher de tuer, faisant reposer ainsi sur lui toute la responsabilité de la situation. Autre situation significative, alors qu'il est condamné à mort, un prêtre qu'il a refusé plusieurs fois, trois fois, viole l'intimité de sa cellule, utilise toutes les ficelles de la persuasion, lui parlant de ce qui ne l'intéresse pas. Meursault ne l'écoute pas. À un moment donné, pourtant, la voix du prêtre se fait inquiète et pressante. Il ne joue plus. Le texte, « J'ai compris qu'il était ému et je l'ai mieux écouté. » Peu importe ce que dit le prêtre, l'essentiel, c'est l'émotion pure qu'il exprime, la valeur humaine de son inquiétude et de son silence, avec lesquels Meursault entre spontanément en sympathie. Dans cette problématique de la douleur et de la communication de la chair, vous pensez qu'il est légitime, pour comprendre l'auteur Camus, d'identifier implicitement l'homme Camus à son œuvre, et que cette identification peut elle-même se redoubler et se justifier par la quasi-identification continuée de l'auteur à la figure du Christ, dans et par la vénération qu'il lui manifeste. Pour une œuvre comme celle de Camus, fortement autobiographique, la première identification est quasiment inévitable, et elle est pratiquée par beaucoup de lecteurs. La seconde vous appartient en propre. Comme la première, elle peut être certes discutée, mais cette quasi-identification dans une vénération qui marque aussi inversement une grande distance, Camus reconnaît à travers le personnage de Jacques dans Le Premier Homme, Jacques, c'est Camus lui-même, qui n'a pas su vivre au niveau de cette vérité essentielle qu'incarne sa mère Christ ou son personnage Meursault dans L'Étranger. Mais cette quasi-identification éclaire incontestablement l'œuvre d'une lumière originale, en offrant un fil de lecture tout à fait opératoire, car il est vrai, comme vous l'affirmez, que c'est au regard de cette douleur solidaire que l'on peut comprendre combien la figure du Christ a compté pour Camus. Une phrase que l'on peut, de votre point de vue, inverser, ce qui donne c'est au regard de la centralité de la figure du Christ que l'on peut comprendre l'importance de la douleur solidaire chez Camus. Ce qui rend ainsi votre livre passionnant, c'est qu'il montre combien nous avons affaire avec Camus à une pensée véritablement incarnée. En effet, ce n'est ni par l'éducation de la famille, ni par les leçons du catéchisme que Camus a rencontré le Christ, mais dans sa chair, et directement aussi à travers des figures vivantes. Son silence, la pauvreté absolue des personnes qui l'entourent. Camus rencontre aussi le Christ à travers les grands événements dans lesquels il se trouve jeté et dans lesquels il va lucidement s'engager pour la justice. C'est le Christ, dites-vous, qui rend la terre aux pauvres en Algérie. C'est le Christ encore qui habite les prisons en Espagne. pendant le franquisme. C'est le Christ qui résiste silencieusement et à travers les nombreuses figures anonymes des justes à toutes les oppressions. On est ému quand vous rappelez ces rencontres quasi mystiques de la vie qui sont effectivement pour nous, lecteurs de Camus, de véritables propositions pour pénétrer au cœur charnel de sa pensée. Avant de lire votre ouvrage, je considérais que le thème de la douleur ne devenait intéressant car philosophiquement opératoire qu'à partir des lettres à un ami allemand, c'est-à-dire entre 1943 et 1944, pendant la guerre, et l'engagement dans la résistance. Quand Camus pense que pour rester fidèle à son anti-nihilisme, il lui devient impossible de pousser jusqu'au bout les conséquences de la pensée de l'absurde. Camus admet alors philosophiquement, et cela contrairement à ce qu'affirmait Meursault, que tout ne se vaut pas, et que décider de combattre le fascisme, c'est réellement affirmer une valeur. C'est qu'au-delà de la logique absurde, Camus tient compte à présent explicitement de l'aptitude des hommes à la communication spontanée de la chair, dans laquelle et par laquelle a déjà été reconnue, je cite, les témoins de la liberté, la constante justification des hommes qui est la douleur. Une reconnaissance qui suppose l'identification spontanée à la douleur du semblable, sur laquelle peut s'étayer une éthique de la similitude et de la coopération et des solidarités résistantes sur lesquelles se construisent les hommes en tant qu'hommes et la socialité humaine. C'est-à-dire, suivant votre formulation de la page 157, un corps solidaire réel et vivant. Car vivre, écrit Camus, est en soi un jugement de valeur. Et se révolter et résister à ce qui est éprouvé comme un mal, c'est revendiquer une vie commune, indissociable de la valeur. Et c'est en ce sens qu'il écrit dans L'homme révolté que la justice est vivante. Alors j'admets aujourd'hui, après vous avoir lu, que votre mise à jour de la douleur comme, je vous cite, une véritable lame de fond qui traverse depuis ses commencements l'œuvre camusienne et qui justifie de donner au Christ une position centrale, m'a soulevé aussi et assez convaincu. Quelques mots pour terminer sur la question du statut de l'un et sur celle corrélative de la transformation. Vous avez raison de décrire qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur ces questions très abstraites, et vous suggérez alors la solution plotinienne qui allie transcendance et immanence dans l'affirmation de l'un, solution que Camus connaît bien pour l'avoir étudiée dans son mémoire universitaire, et qui se retrouverait donc, selon vous, dans l'idée d'une transcendance vivante, ce qui est un apax chez Camus. Camus parle aussi, vous n'avez pas cité, de transcendance horizontale. Je souhaite seulement rappeler, pour ne pas aller trop vite vers une solution qui répond à la soif d'unité, combien chez Camus, l'un est indissociable de l'affirmation du multiple, de la multiplicité. En effet, si l'absurde est d'abord défini par la nostalgie tragique d'une unité perdue, de manière pascalienne, l'impératif de la sagesse camusienne va être au contraire de s'arracher à cette nostalgie absurde pour faire d'une limitation une puissance vivante au présent d'affirmation de la vie. Ainsi, le sage camusien dit oui à ce qui est, c'est-à-dire à la pluralité et à la diversité du monde. Je cite, « Il multiplie, c'est le mythe de Sisyphe, il multiplie ce qu'il ne peut unifier. Ainsi découvre-t-il une nouvelle façon d'être qui le libère au moins autant qu'elle libère ceux qui l'approchent. » Le sage transforme ainsi une limitation, c'est-à-dire l'impossibilité d'unifier le réel et de répondre à cette soif d'unité, en une nouvelle puissance d'être et d'agir qui est fondamentalement émancipatrice. Tout être saint, écrit Camus, tend à se multiplier. Et cette pluralité intrinsèque de toute chose les mille petites voix émerveillées de la terre, à la fin du mythe de Sisyphe, hein, c'est une très belle phrase. Cette pluralité du divers est aussi l'objet principal de la création et de la création artistique. Toute pensée qui renonce à l'unité, écrit Camus, exalte la diversité, et la diversité est le lieu de l'art. Et il faut ajouter la diversité, le lieu de la vie elle-même, ce que Camus pense aussi. Alors je m'arrête sur cette réflexion, je suis déjà un peu long, en vous remerciant vivement pour ce livre si stimulant.
Laurent Bove, je vous remercie. Merci pour Véronique. Je note pour ma part cette insistance sur la dimension incarnée dans la pensée de Camus, cette question de la douleur et de la souffrance. Je crois que si on fait une réflexion dans le champ de la mystique, la traversée peut-être de... Je crois que tu parles de la défaite dans ton livre ou de l'épreuve. Peut être une idée qui pourrait inspirer. Et bien sûr, cette question d'incarnation à la place de la chair et du corps. Alors, nous avons écouté un philosophe. Maintenant, nous allons donner la parole à un théologien. Donc, Michel, permets-moi de te présenter brièvement. Donc, tu es bien connu dans cette maison. Tu es théologien, professeur émérite aux facultés Loyola, directeur de la chaire de théologie œcuménique, enseignant en patristique et en théologie dogmatique. Il faut noter que tu as reçu le prix Ratzinger en 2022 pour l'ensemble de ton œuvre. Alors, parmi ton abondante bibliographie, je peux citer le livre récemment paru sur le Christ, voilà, qui n'est pas sans lien avec notre soirée. Donc, ton ouvrage le plus récent, je crois, en Christologie. Donc, Michel, je te donne la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier Véronique Albanel de m'avoir invité à prendre la parole ce soir et surtout la remercier de ce très beau livre qu'elle nous donne sur le Christ d'Albert Camus. C'est un livre qui est très informé, comme le montrent les nombreuses références aux écrits de Camus, non pas seulement aux grandes œuvres de l'écrivain, mais aussi, et plus encore, ça m'a beaucoup frappé, à ce qui est habituellement beaucoup moins connu, des essais, des discours, des conférences de Camus, et surtout ces carnets dans lesquels il révèle tant de lui-même. D'autre part, c'est un livre que j'ai trouvé original et courageux, car il s'efforce d'éclairer une question particulièrement complexe et délicate, le regard de Camus sur le Christ. Et je trouve que vous traitez cette question avec beaucoup de respect. D'un côté, vous traquez en quelque sorte les moindres propos qui laisse paraître l'estime de Camus pour le Christ et même l'attrait que le Christ exerce sur l'écrivain. Mais d'un autre côté, vous ne forcez jamais sa pensée. Vous savez aussi marquer, quand il le faut, la distance de l'écrivain par rapport à la foi chrétienne. Le livre propose vraiment un véritable itinéraire. Le premier chapitre rend compte de ce qui apparaît chez Camus comme une vénération du Christ. Ce premier chapitre montre d'un bout à l'autre ce qui a tant retenu et attiré Camus dans la personne du Christ. Avant tout l'incarnation, car Jésus a eu un corps, un visage, une chair, comme tout être humain, mais aussi son message, l'un des messages les plus purs que l'humanité ait jamais connu, écrit Camus. L'exigence de justice du Christ, ainsi que sa proximité avec les pauvres. Cette proximité avec les pauvres qui fait du Christ un homme exemplaire. Et finalement, vous insistez beaucoup sur ce point, bien sûr, la passion et la croix. La mémoire de Gethsémani est discrètement présente, vous le montrez, à travers la figure de Meursault dans L'étranger. Ce personnage que Camus présente comme, je cite, « le seul Christ que nous méritions ». Car il est un homme qui ne ment pas et qui accepte de mourir pour la vérité. Le Christ est en tout cas pour Camus cet homme qui a enduré la souffrance jusqu'à la mort, alors même qu'il n'était nullement coupable, et par là n'est point aboli le scandale du mal. La passion du Christ est plutôt ce qui attire l'attention sur la seule réponse possible à ce scandale, celle dont témoigne par exemple le docteur Rieux dans La Peste et qui est de se rendre solidaire avec ceux qui souffrent et qui désespèrent. Après ce premier chapitre, le deuxième chapitre porte sur la morale de Camus, son opposition au nihilisme, son refus du meurtre et de l'enchaînement fatal qui y conduit, en particulier son refus du mensonge, son affirmation aussi de valeurs fondamentales telles que la justice, la compassion à l'égard des victimes comme à l'égard des bourreaux, la solidarité, la fraternité. Tout cela d'ailleurs se nourrissant parfois de références à l'Évangile, par exemple, vous rappelez comment Camus cite la parole du Christ à la pécheresse « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Et vous soulignez à la fin de ce chapitre l'actualité de la morale développée par Camus, une morale à notre portée, comme vous dites, une morale qui, comme telle, peut devenir un terrain d'entente et un lieu de rassemblement entre croyants et incroyants. Mais la morale ne suffit pas, et vous consacrez un troisième chapitre à la mystique, que vous qualifiez, dans le cas de Camus, comme une mystique solidaire. Certes, vous le reconnaissez, il n'est pas question de faire de Camus un mystique. Néanmoins, vous montrez que des traces mystiques se laissent repérer de maintes manières à travers son œuvre. Vous relevez, par exemple, la place que l'écrivain donne à la notion de transfiguration, qui était déjà évoquée, bien sûr, cette notion de transfiguration qui déborde toutes les catégories. Je signale au passage que vous indiquez également dans ce troisième chapitre l'intérêt que Camus porte vers la fin de sa vie au journal spirituel d'Ignace de Loyola. Et vous évoquez à ce propos la relation de Camus avec son ami d'enfance, Georges Didier, devenu jésuite et mort accidentellement en 1957. Et vous citez la lettre si émouvante que Camus adressa alors au supérieur de ce jésuite, Georges Didier. Camus écrivit à propos de Georges Didier, je le cite, « Lorsque je l'ai retrouvé sous l'habit religieux, je n'ai pas eu de peine à aimer de nouveau ce qui n'avait pas cessé d'être, car il était resté le même enfant, devenu le même homme, avec la même foi, plus pure et plus profonde, et la même fidélité. Je n'ignore pas que pour lui, la mort n'était qu'un passage. Il savait parler d'une certaine espérance, mais pour ceux qui, comme moi, l'ont aimé sans pouvoir partager cette espérance, le chagrin est entier. Il reste, vous avez raison, le souvenir et l'exemple. » Vous montrez aussi la présence dans l'œuvre de Camus de certaines images comme celle du désert ou de la nuit, des images qui peuvent être chargées de résonances mystiques. Et vous soulignez surtout que le seul horizon de la mystique est pour Camus la solidarité avec tous les hommes, avec cette conviction que tous peuvent être sauvés. Les vrais mystiques, écrivez-vous, s'ouvrent simplement au flot qui les envahit. Or, cela se vérifie chez Camus dans l'élan d'amour qui s'exprime à travers même passage de son œuvre, et c'est précisément l'objet de votre dernier chapitre, ce dernier chapitre que vous intitulez « L'amour sans mesure, la divine disponibilité ». Cette disponibilité à l'égard de la vie et de l'amour traverse tous les écrits de Camus, dites-vous. Et de fait, cela ressort bien de certains personnages dans son œuvre, par exemple la mère du docteur Rieux dans « La peste » ou la mère de Jacques Cormery dans « Le premier homme ». Mais cela ressort aussi de nombreuses réflexions qui sont éparses dans les carnets et, plus intimement encore, de certaines correspondances avec Francine, sa deuxième femme, ou avec Maria Cazares, avec qui il a eu une liaison interrompue puis reprise. Ces passages où s'exprime justement l'élan de l'amour et d'un amour qui est de plus en plus compris comme don de soi. Camus, dites-vous, espérait atteindre, selon ses propres mots, le moment où les êtres cessent de lutter et de se déchirer et acceptent enfin de s'aimer selon ce qu'ils sont. Et il ajoutait, c'est le royaume des cieux. En parcourant ainsi rapidement le livre de Véronique, j'ai déjà laissé paraître combien ce livre est à mes yeux important et combien il éclaire vraiment le regard de Camus sur le Christ. Mais je voudrais répondre plus directement à la question que vous m'avez posée. Vous m'avez demandé comment je reçois ce livre de mon point de vue de théologien à partir des champs de travail qui sont les miens. Il me semble avant tout indispensable de préciser la posture qui est ici requise. Parce que pour le théologien, en pareille circonstance, plusieurs écueils sont possibles. Il y aurait bien sûr pour le théologien l'écueil d'une opposition de principe. On mettrait avant tout l'accent sur tout ce qui, chez Camus, est manifestement incompatible avec la tradition chrétienne. Mais il y aurait aussi la tentation inverse. On s'appuierait sur telle ou telle déclaration de Camus, par exemple ce qu'il dit sur sa vénération devant la personne du Christ. On s'appuierait sur de telles déclarations pour opérer plus ou moins une sorte de récupération chrétienne. Et justement, vous mettez en garde contre ce deuxième écueil en prenant acte du fait que Camus se dit incroyant. Et vous en prenez acte en identifiant les points sur lesquels Camus a pris position contre le christianisme et contre telle ou telle de ses doctrines. Mais je pense qu'il y aurait aussi une tentation plus subtile pour le théologien. Du fait que Camus réagissait parfois par rapport à des représentations théologiques qui avaient cours en son temps, mais qui, en soi, étaient contestables, on pourrait faire valoir que si Camus avait connu certaines évolutions de la théologie ultérieure, ces objections seraient par le fait même tombées. Mais qu'en savons-nous ? Qu'en savons-nous ? Ce serait sans doute, là encore, une récupération indue. Le théologien qui lit aujourd'hui Camus doit en fait éviter tous ces écueils. Il doit être assurément conscient des évolutions que la théologie a connues depuis une cinquantaine d'années, mais cela ne peut pas lui servir d'alibi pour esquiver les questions soulevées par Camus. Et en réalité, plutôt que de se demander si ces évolutions auraient conduit Camus à modifier ou non son regard sur le Christ, il faut plutôt se demander, me semble-t-il, en quoi ce regard de Camus sur le Christ interroge la théologie aujourd'hui et comment celle-ci peut effectivement en tenir compte, non point certes pour mettre en cause ses propres positions, mais pour en acquérir une intelligence plus juste. Et il est possible de montrer cela brièvement à propos de questions aussi centrales que celles de l'incarnation, de la résurrection ou des questions concernant la grâce, le péché et la grâce. La chose est relativement aisée en ce qui concerne le premier point. Véronique Albanel souligne que la vénération de Camus pour la personne du Christ commence précisément avec l'incarnation et que pour Camus, le Christ, je vous cite, est venu rejoindre le corps, le visage et la chair de tout homme. Non seulement le corps et le visage, mais bien la chair, cette chair qui ressent, qui vibre ou qui se réjouit. Cette chair, surtout, qui exprime aussi la douleur physique, la douleur morale. Et le Christ, précisément, a fait l'expérience de cette humanité jusqu'au bout, jusqu'à connaître dans sa chair l'épreuve de la douleur, de la souffrance et de la mort. L'incarnation n'est donc pas envisagée ici simplement comme un événement inaugural, la naissance de Jésus. Elle est ce qui ouvre une histoire faite de joies et de peines, de blessures et de souffrances, ces souffrances atteignant bien sûr leur paroxysme dans la passion. Sur ce point, la théologie chrétienne ne peut que consonner entièrement. Elle sait certes depuis les origines qu'il faut lutter contre toute forme de docétisme et reconnaître la pleine consistance de l'humanité du Christ, et elle n'aura jamais fini de réaliser la portée concrète d'une telle affirmation. La théologie n'aura jamais fini de mesurer à quelle profondeur le Christ a été effectivement l'un de nous par sa manière d'être au monde, par sa corporéité, par sa chair qui fut vulnérable au point d'être un jour crucifié. Sur le deuxième point que j'annonçais, la résurrection, on est certes confronté à une déclaration très nette de la part de Camus qui déclare en 1957 « Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. » Cela est à entendre, mais vous attirez justement l'attention sur le fait que, à l'époque moderne, l'idée de l'immortalité de l'âme prenait souvent le pas sur la tradition relative à la résurrection de la chair, avec le risque d'identifier celle-ci à celle-là. cela se vérifiait, sinon chez tous les théologiens, en tout cas dans la conscience commune de beaucoup de chrétiens qui, tout en professant la foi en la résurrection de Jésus et tout en professant l'attente de la résurrection des morts au dernier jour, se représentaient avant tout le salut comme un salut des âmes. Un salut des âmes. Or Camus réagit par rapport à cela avec vigueur. Par exemple, dans un texte de 1936, « Que me faisait, dit-il, de revivre en mon âme et sans yeux, sans mains, sans peau ?» Pour Camus, la représentation d'une pure et simple immortalité de l'âme va ainsi à l'encontre d'un attachement foncier au corps, à la vie terrestre, au monde dans sa concrétude telle que nous en faisons l'expérience. Tout comme Ulysse, qui dans l'Odyssée préfère rentrer à Ithaque et y mourir, plutôt que de se laisser entraîner par Calypso à une forme d'immortalité qui l'arracherait à cette terre, Camus, dites-vous, choisit Ithaque. Et il refuse une béatitude éternelle privée de corps et de conscience. Et son attitude, d'ailleurs, s'éclaire aussi par deux considérations que vous rappelez. Camus est convaincu que la référence à l'immortalité de l'âme a pu servir d'argument pour justifier le scandale du mal, ou en tout cas pour apporter une consolation illusoire aux victimes. Et Camus dénonce en outre l'attitude de l'Église qui a pu, au nom de cette même croyance, cautionner la peine de mort en la présentant simplement comme un châtiment provisoire, susceptible de favoriser ensuite le salut des coupables. Toutes ces considérations aident à comprendre la position de Camus. Alors il est vrai que sur ce sujet, la théologie chrétienne a connu des évolutions depuis une cinquantaine d'années. Certes, elle n'a pas renoncé à l'affirmation de l'immortalité de l'âme, mais elle a critiqué, avec Karl Rahner par exemple, la représentation traditionnelle de l'âme séparée dans l'au-delà, en refusant que l'on puisse penser l'âme comme étant, après la mort, affranchie de tout lien avec la corporéité qui a été la sienne en ce monde. Et surtout, la théologie chrétienne, depuis une cinquantaine d'années, a remis au centre l'idée de la résurrection, qui est l'objet de l'espérance chrétienne. Mais je pense que l'interpellation de Camus reste à entendre. Elle devrait provoquer à approfondir encore le sens de cette résurrection comme résurrection de la chair, qui n'est pas à entendre, bien sûr, comme l'entrée dans un autre monde dépourvu de toute corporéité, mais qui est plutôt à entendre comme le don d'une nouvelle forme de corporéité qui porte l'ancienne à son accomplissement. Enfin, troisième point, Camus se heurte à la doctrine du péché qui ne saurait aucunement expliquer ni justifier la souffrance et la mort des innocents. Lorsque, dans la peste, le docteur Rieux se trouve face à l'agonie interminable d'un enfant, il rejette le discours apologétique du père Panelou et il s'exclame « Ah, celui-là, au moins, est-il innocent, vous le savez bien. » Certes, Camus ne considère pas que l'être humain soit totalement innocent, mais il n'admet pas qu'il puisse être définitivement coupable. La question est alors, qu'est-ce qui permet d'arracher l'homme à sa culpabilité et d'en faire un innocent ? Le christianisme invoquerait ici la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que Clémence, dans la chute, attend l'advenue d'une telle grâce. Mais Camus, précisément, refuse cette doctrine, d'abord parce qu'il comprend la grâce comme une grâce arbitraire, et donc à ses yeux injuste, et plus encore parce qu'elle lui semble détourner l'homme de l'effort moral, de la vertu, de l'engagement pour la justice sur terre. Vous montrez que cette position critique sur les doctrines chrétiennes du péché et de la grâce s'enracine avant tout dans la préoccupation incessante de Camus envers les hommes souffrants, humiliés, persécutés. Mais, ajoutez-vous, Camus sait en même temps que, je vous cite, « l'homme ne peut pas trouver sa justification en lui-même et par lui-même ». Camus considère que des chemins sont néanmoins offerts à l'être humain, d'abord celui du sacrifice de sa vie pour la cause que l'on entend défendre, ensuite, autre chemin de justification, la reconnaissance et l'amour d'une communauté fraternelle et vivante. Et donc ici encore, on le voit, l'horizon est celui d'une solidarité avec tous les humains. La pensée de Camus ne peut donc pas être simplement réduite à ses jugements sévères sur les doctrines du péché et de la grâce. Certes, on fera justement valoir du point de vue théologique que, contrairement à ce que laisse entendre le père Panelou dans La Peste, la doctrine chrétienne du péché n'entend aucunement justifier la souffrance des innocents. On expliquera à juste titre que le don de la grâce ne doit pas être compris comme un don arbitraire et que, selon l'apôtre Paul lui-même, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On ajoutera encore que la doctrine de la justification, bien comprise, ne saurait empêcher l'homme d'œuvrer pour la justice, mais doit au contraire susciter l'exigence de cette justice. Mais la pensée de Camus provoque précisément le théologien à apporter ces précisions essentielles. Et elle l'invite aussi à un regard critique sur tout un pan de la tradition chrétienne qui, qu'on le veuille ou non, induit de fausses représentations du péché, de la grâce et du salut. Disant cela, on pense ici, bien entendu, au jansénisme. On sera peut-être tenté d'ajouter qu'en amont du jansénisme, une lourde responsabilité incombe à la tradition augustinienne. Mais je m'empresse d'ajouter que la réalité est beaucoup plus complexe si l'on s'avise de ce que Camus a lui-même écrit au sujet d'Augustin. Et cette dernière remarque m'introduit au tout dernier point que je voudrais évoquer et qui concerne non seulement Augustin, mais plus largement la littérature patristique et la philosophie néoplatonicienne. Je voudrais remercier tout particulièrement Véronique Albanel d'attirer notre attention dans son livre sur un écrit peu connu, mais de grand intérêt, le diplôme d'études supérieures que Camus présenta en 1936 et qui portait sur le sujet « Métaphysique chrétienne et néoplatonisme ». Je n'avais jamais lu cet écrit, j'ai attendu, c'est votre livre qui a attiré mon attention sur ce mémoire. Dans ce mémoire de 1936, Camus s'efforce de préciser les rapports du christianisme et de l'hellénisme, avec le souci d'identifier leurs différences en même temps que leurs aspirations communes. Il avertit d'emblée son lecteur que la nouveauté chrétienne n'est pas celle d'une philosophie qui s'opposerait à une autre philosophie, mais qu'elle tient plutôt à un ensemble d'aspirations, à une foi, qui ont pu justement s'exprimer dans des formules métaphysiques héritées de la Grèce. Et l'étude se déploie alors en 4 chapitres. Le premier traite de ce que Camus appelle le christianisme évangélique, le Nouveau Testament, les premiers pères de l'Église. Ensuite, il est question de la gnose, c'est la deuxième partie, le deuxième chapitre. Puis, on a 2 chapitres, chapitres 3 et 4, qui portent respectivement sur Plotin et sur Augustin. Et ces chapitres me semblent très révélateurs. D'un côté, Camus est manifestement séduit par Plotin. Il partage son scepticisme devant une foi qui se passerait de la vertu. Il souligne que si Plotin se saisit de l'intelligible, il le fait avec sa sensibilité même, et que sa pensée témoigne d'un effort émouvant pour exprimer le sentiment dans des formes rationnelles, pour rendre à la raison son émotion, pour en faire une raison mystique, marquée par l'élan d'un désir extatique que Plotin assimile à la passion amoureuse. D'un autre côté, Camus voit en Augustin, originaire comme Camus de l'Afrique du Nord, un homme qui est partagé entre la sensualité, la conscience du mal, le désir de comprendre et l'appel de la foi. Camus est séduit par l'angoisse tragique d'Augustin, qu'il décrit, je cite, comme « grec par son besoin de cohérence, chrétien par les inquiétudes de sa sensibilité ». Ce texte de 1936 prend un relief remarquable si on le lit à la lumière des écrits ultérieurs de Camus. Et il contribue, me semble-t-il, pour sa part, à éclairer justement le regard de Camus sur le Christ. Qu'on a pu l'écrire, Camus projette sur l'hellénisme comme sur le christianisme ses propres difficultés et ses propres aspirations. Désormais, la joie et le tourment, la vie et la mort sont inséparables, comme la Grèce plotinienne et l'Afrique augustinienne, toutes deux filles de l'ombre et de la lumière qui basculent inlassablement sur la Méditerranée. Dans un passage de votre livre, Vous évoquez la maladie dont souffre Camus à la fin de 1957 et qu'il qualifie comme déséquilibre. Il l'appelle ainsi. Et vous citez alors ce mot de Camus, « Grécisez le Christ et l'équilibre revient ». Et vous commentez, « Le remède au déséquilibre se trouve donc chez les Grecs ». Page 117. Je ne sais pas si je dois vous suggérer d'écrire un autre livre sur Camus et la Grèce, ou plus largement sur Camus et la Méditerranée. Mais je vous demanderai au moins si la tension entre l'hellénisme et le christianisme, entre Plotin et Augustin, entre le dieu Pan et le verbe fait chair, ne contribue pas pour sa part à éclairer le regard de Camus sur le Christ. N'éclaire-t-elle pas, entre autres, sa vénération pour le verbe fait chair, juste parmi les justes, solidaire de ceux qui ploient sous le malheur, en même temps que son refus d'une immortalité qui ne ferait pas retrouver le goût de la terre, la lumière du soleil, la beauté du monde, le bonheur d'un amour. Précisément, j'ai découvert que Camus avait effectué un voyage en Grèce en juin-juillet 1958, 6 mois avant sa mort accidentelle dans le Luberon. Et Camus note dans ses carnets la joie et le bonheur que lui ont procuré ce voyage en Grèce. L'œuvre de Camus, de ce point de vue, me semble comme encadrée par son mémoire de 1936 sur les rapports du christianisme et de l'hellénisme, d'une part, et par ses notes sur le voyage en Grèce, tout à la fin de sa vie. Ce voyage, lors duquel il goûte, je cite, « la grande abondance d'oliviers et de cyprès filiformes qui garnissent les pentes des collines et des montagnes vers la mer, les îles imprévues qui se forment en ombre sur l'horizon, la nuit qui tombe sur l'immense cirque des montagnes et sur la baie soudain mystérieuse, la beauté qui dort sur les eaux. » Mais c'est le même écrivain, Camus, qui a été aussi saisi par l'épisode de Gethsémani, par la flagellation du Christ, par le drame de la croix et, à travers elle, par la douleur du monde. Dans l'introduction de son mémoire en 1936, Camus écrivait « Quelque chose dans la pensée grecque préfigure le christianisme dans le même temps qu'autre chose le rejette à l'avance. » Sans doute Camus s'est-il tenu en quelque sorte sur cette ligne de crête d'où l'on peut embrasser d'un même regard, non sans tourment ni déchirement intérieur, les aspirations communes à l'hellénisme et au christianisme, en même temps que leurs irréconciliables différences. Merci en tout cas, Véronique, de nous aider si bien à comprendre le regard de Camus sur le Christ, avec tant de respect pour l'écrivain et tant de pénétration dans la lecture de son œuvre. Merci.
Michel, merci pour cette belle lecture du livre de Véronique qui nous rappelle la délicatesse et le respect avec lequel tu as travaillé sur Camus, qui est notable quand on te lit. Donc merci pour ça. Merci de nous pointer les écueils du théologien, les écueils possibles, pour que nous les évitions, nous qui travaillons ici en théologie, et peut-être qu'il y a des écueils aussi pour les philosophes. Donc Véronique, maintenant je vais te donner la parole. Alors Véronique, tu es philosophe. Tu as été juge dans une vie antérieure, il y a très longtemps. Aujourd'hui, tu es professeur de philosophie dans cette maison, spécialiste de Hannah Arendt. Et bien sûr, maintenant, c'est officiel, de Camus. Voilà. Tes réflexions gravitent dans le champ de la philosophie politique autour du rapport entre christianisme et politique. Tu refuses de dissocier la pensée et l'action, ce dont témoignent, je crois, ton travail intellectuel et tes engagements personnels. Est-ce que je peux me permettre d'évoquer ton long passage au JRS ? Le service jésuite des réfugiés, comme présidente de l'association. Et je crois que quand on considère tes engagements et tes publications, hein, je peux me permettre de citer, excuse-moi, je n'ai pas apporté le livre, ton livre « La fraternité bafouée, sortir de la peur du grand remplacement », qui, je pense, a été suscité par tout ton travail au JRS. Quand on considère tes engagements et tes publications, on comprend ton amitié, je ne sais pas si le mot est bon, ta sympathie pour Camus, cet homme épris de vérité, ainsi que tu le présentes, de justice et de solidarité, cet homme dont tu nous as fait un magnifique portrait. Voilà, je te donne la parole.
Alors, il me revient de vous remercier pour commencer d'abord d'être présent ici. Merci à Laurent pour sa lecture tout à fait stimulante, parce que je sens bien qu'il y a encore à cheminer sur plein de sujets. Ce que vous avez dit notamment sur cette douleur comme lame de fond, je reçois aussi l'objection, hein, j'essaie de la prendre vraiment en considération, mais ce qui m'a le plus étonnée, c'est cette identification que vous avez vue en mon ouvrage, plus que je crois n'aurais voulu le faire, entre les personnages notamment des romans et Camus lui-même, et en parallèle avec le Christ. Voilà, et merci aussi à Michel qui éclaire mon livre, je vous avoue, beaucoup mieux que le livre est écrit, hein. Donc retenez ce qui est dit ce soir, parce que moi j'ai l'impression de comprendre mon livre à travers ce que vous en dites, donc merci beaucoup. Et je suis très reconnaissant à Michel la manière dont il reçoit l'interpellation de Camus auprès des théologiens. Et comme j'ai eu la chance de lire partie de ce livre sur la christologie, j'avoue que je lui dois quand même, mais je vais le dire tout de suite dans ma présentation, le fait de pouvoir me tenir comme croyante face à l'incroyant. Donc, voici une rapide présentation. Et je remercie en particulier mon amie très chère Marie-Caroline, qui n'a même pas présenté, ne s'est pas présentée, donc je vais le faire. Elle est théologienne et responsable du département spiritualité et vie religieuse, Messi, assume. Et donc, je suis très heureuse qu'elle ait accepté cette responsabilité ce soir. Alors, j'ai intitulé cette courte présentation « Le Christ de Camus ou l'amour invincible ». Vous savez qu'il y a cette fameuse « l'invincible été », cette magnifique formulation qu'il utilise, et je pense qu'on peut dire « l'amour invincible ». Dans la vie de Camus, l'attachement au Christ relève d'abord... Oulala, il n'y a pas de mots. C'est la panne de la voix. Béatrice, je peux ? Merci infiniment. Solidarité. Non. C'est la solidarité en acte. Merci. Ça va aller. Donc, dans la vie de Camus, l'attachement au Christ relève d'abord du mystère indicible, car rien ne laissait prévoir cette rencontre avec le Christ. Tout y faisait même obstacle. Je crois que ça a été dit notamment par Laurent, et j'énumère quelques éléments de sa vie, hein, bien connus. Tout d'abord, la mort de son père à la guerre en 1914. Camus est né en 1913. Deuxièmement, le handicap de sa mère, qu'il décrit comme une femme pauvre, malheureuse, ignorante. Troisièmement, la brutalité de sa grand-mère. On pourrait bien sûr ajouter la pauvreté qu'il voulait distinguer de la misère, mais c'était quand même une grande pauvreté. Il n'y avait pas de livres chez lui, sa famille était analphabète. Et pour finir, j'insiste là-dessus, comme l'a fait Laurent, un catéchisme que je qualifierais de raté à la suite d'une gifle assénée brutalement par le prêtre. Pourtant, c'est là, auprès des siens, comme il les appelle, et de sa mère en particulier, que Camus va découvrir ce qu'il appelle la vérité de sa vie, c'est comme ça qu'il la nomme à la fin du premier homme, en affirmant de manière bouleversante sa mère, la sienne, mais parce que je crois que Jacques Cormeris, J.C. comme Jésus-Christ d'ailleurs au passage, et Albert Camus ne sont, en tout cas sont extrêmement proches, donc sa mère est le Christ. Cette vérité de la vie, Camus la reconnaît très tôt et la nomme dans Nos, donc vraiment après l'envers et l'endroit, c'est très rapidement Nos. Donc il la nomme la vérité du monde. Et cette vérité, c'est la vérité du corps et de la chair qui souffre, qu'il découvre à travers donc la contemplation de deux peintures de Piero della Francesca, comme ça a été dit, la flagellation du Christ et la résurrection. Et je pense que c'est sa première vraie rencontre. Bien sûr, il y a le mémoire de 1936, mais je pense que là, il y a une vraie rencontre qui permet d'éclairer cette vénération. La contemplation de ces deux œuvres l'aidera jusqu'à sa mort, on le sait par les carnets. Il dit qu'il espère, avant de mourir, retourner voir ses œuvres. Et donc, cette contemplation l'aidera à vivre et à ne pas désespérer. Et en cela, Camus nous interpelle particulièrement aujourd'hui, alors qu'il nous faut, une fois encore, empêcher que le monde ne se défasse. Vous savez que c'est ce qu'il dit. Merci, Henri. Ah, qu'est-ce que je ferais sans vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, empêcher le monde que le monde ne se défasse, vous reconnaîtrez. Je suis très assistée ce soir. C'est l'expression qu'il... vous savez, il dit, notre génération ne pourra pas refaire le monde, mais elle peut au moins empêcher que le monde ne se défasse, c'est ce qu'il dit dans son discours du prix Nobel. Et j'ajoute qu'il insiste sur le fait de réconcilier, je le cite, le cœur douloureux des hommes et les printemps du monde. Et je crois vraiment cette formulation qu'on trouve dans l'été dit bien sa mission, sa vocation, à laquelle, je crois, il n'a cessé de rester fidèle. Alors, je reviens sur son rapport au Christ et au christianisme. Camus n'a cessé de faire des déclarations publiques et courageuses à une époque où je pense qu'il était très mal perçu de parler de ces sujets, en tout cas assez mal perçu dans certains cercles que côtoyait Camus. Et je précise quelles sont ses déclarations. Il se dit incroyant, mais non pas athée. Il dit même que professer l'athéisme a quelque chose de vulgaire. Donc ça laisse quand même quelque chose comme un espace. Et il affirme, mais ça a été déjà dit, je le rappelle, je le cite, « Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. » Fin de citation. Camus n'est donc pas chrétien. Et avec lui, toutes nos catégories volent en éclats. Alors j'entends, on est après Vatican II, la théologie a changé, oui, mais je n'entrerai pas dans cette troisième récupération dont parlait Michel, c'est-à-dire que peut-être les représentations d'aujourd'hui l'auraient fait changer d'avis. Moi, je le prends tel qu'il se dit être, avec beaucoup de force et de clarté. Alors, j'énumère, parce que vraiment, je le disais, nos catégories volent en éclats. L'écrivain vénère le Christ, mais il n'a pas la foi, ni en Dieu, ni dans un Christ messianique. Il ne partage pas l'espérance des chrétiens, ou plus précisément, il fonde son espérance propre, je le cite, sur le corps, la tendresse, la création artistique, la noblesse humaine. Fin de citation. Et pour finir, il préfère la solidarité fraternelle à la charité. Que reste-t-il alors du Christ sans la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales? De tout cela, les chrétiens pourront être tentés de l'écarter d'un revers de main, faute de conformité au dogme et de consolation suffisante. Oui, c'est vraiment un monde pour le courage, ce qui était dit tout à l'heure à propos de Spinoza, et je pense que lui l'a éprouvé comme tel. Pourtant, le Christ de Camus est étrangement vivant, agissant et même ressuscitant, comme il le dit, lui-même dans Nos. C'est l'expression qu'il utilise pour décrire ce Christ qui émerge entre les soldats de Piero della Francesca. Et j'ajoute, la résurrection ressurgit à la fin de la vie de Camus à propos de sa mère. Et je vous cite deux extraits de ses carnets, donc les derniers carnets, carnet 3. Deux citations que j'aime beaucoup à propos de sa mère. La première, que disait son silence ? Que criait cette bouche muette et souriante ? Nous ressusciterons. Et l'autre, maman, si l'on aimait assez ceux qu'on aime, on les empêcherait de mourir. Telle est la vérité, me semble-t-il, du juste souffrant, celle du Christ en agonie et celle de la mère de l'écrivain. Et cette vérité est la suivante. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. L'amour est invincible et solidaire de tous. Le mal et la mort ne peuvent pas être le dernier mot. Alors, je reçois cette interpellation que nous adresse Camus, et je la formule ainsi. Les chrétiens peuvent-ils vivre à la suite du Christ, de cet amour invincible et de cette solidarité avec les pauvres en particulier? Telle est la question que nous pose Camus, notamment dans sa conférence chez les Dominicains en 1946, intitulée, je crois, « Un incroyant face aux chrétiens ». Et il la pose avec une incroyable humilité puisqu'il déclare, je le cite, « Ne me sentant en possession d'aucune vérité absolue, je ne partirai jamais du principe que la vérité chrétienne est illusoire, mais seulement de ce fait que je n'ai pu y entrer. » Fin de citation. Et dans cette même conférence, il appelle les croyants à retrouver la vertu de révolte et d'indignation, celle des premiers chrétiens, qu'il admire profondément, et dont il dit qu'ils n'étaient pas des modérés. Et il attend, en tout cas il tend la main, il attend un dialogue entre croyants et croyants, entre eux, je le cite à nouveau, des gens qui restent ce qu'ils sont et qui parlent vrai à haute et claire voix. Fin de citation. Dans ce dialogue espéré, Camus n'attend aucunement, je le cite à nouveau, une morale de héros et de saint. Il est faux de dire, parce que vous savez qu'on l'a baptisé un saint laïc, mais je crois qu'il ne s'en est jamais senti digne. Il admirait peut-être, mais en tout cas, ce n'était pas du tout à la sainteté laïque de Tarot dans la peste qu'il s'identifiait. Au contraire, Camus dit que sa morale est modeste et à hauteur d'homme. Et il s'agit surtout, et ça c'est l'héritage de son père, vous savez, l'empêchement, hein, il s'agit pour chacun de s'empêcher de tuer le corps ou l'âme, mais ne nous y trompons pas, le meurtre, comme ça a été dit par Michel, commence très tôt par une simple pensée meurtrière, un mensonge, une trahison, la haine en général, ou tout simplement une insulte, et je vous lis juste parce que j'aime beaucoup cette citation, « Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. » Je trouve que c'est tellement concret, charnel. Oui, je pense que l'insulte interdit de regarder le visage de la personne. La vérité de la vie et du monde est aussi, selon Camus, le chemin du monde. C'est l'expression qu'il utilise. Je ne peux pas m'empêcher de penser à « je suis la vérité, le chemin et la vie ». Et quelque part, il y a quelque chose de ça, mais j'ajoute. Hein. Donc, je me retiens quand même. Chemin qu'il nous faut en tout cas retrouver pour, dit-il, équilibrer l'homme par la nature, le mal par la beauté, la justice par la compassion. Fin de citation. Plus que jamais, je crois que nous avons besoin de cet équilibre que Camus a désespérément cherché à la suite du Christ et de bien d'autres. Je voudrais conclure rapidement sur la résurrection de la chair, et merci vraiment Michel de ce que vous avez dit. À titre personnel, je quitte mon livre, je la désire et l'espère ardemment, pour retrouver les visages tant aimés, bien sûr, mais aussi parce que ce monde et son histoire tragique attendent désespérément une rédemption, une consolation. Pourtant, peut-être que je reviens à Camus, je crois que nous devons aujourd'hui honorer une espérance plus urgente que celle de la résurrection. La présence de Dieu, celle du Christ, dépend de nous, de notre propre humanité, et en particulier de notre capacité à respecter l'humanité des plus petits, des plus pauvres. Et comment ne pas faire référence ici au tout récent texte du pape Léon XIV, qui nous appelle à, je le cite, « aimer le Christ là où il est le plus défiguré » et qui affirme, je le cite encore, « l'amour des pauvres est la garantie évangélique d'une Église fidèle au cœur de Dieu ». La question la plus urgente, selon moi, désormais, n'est pas tant de savoir s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a une vie avant la mort. Et je reprends ici le titre d'un recueil de poésie publié en avril 2025 intitulé « Gaza ». Y a-t-il une vie avant la mort? Je vous remercie.
Merci Véronique. Je vous propose d'entrer dans un débat. Je suppose que de nombreuses personnes parmi vous ont envie de poser des questions soit à Véronique, soit à Laurent, soit à Michel. Peut-être que les uns et les autres ici à cette table avaient des choses à ajouter ou des questions à poser. Non. Donc la parole est à la salle. Alors, je ne sais pas si on a besoin d'un micro. Voilà. Ouais, tu t'en charges. Merci Stéphane.
Merci Stéphane.
Alors, je vous propose de prendre, on va prendre 2-3 questions. Et puis, voilà, les intervenants. Voilà. Oui, alors, on va aussi prendre des questions par le chat. Ou alors, tu as accès ou pas, Véronique? Voilà, il y a déjà des questions là. Alors, nous allons prendre 2-3 questions. On peut... OK.
Oui, non, celui-là marche. Par contre, ça marche pas.
Bonsoir, merci beaucoup. En fait, j'ai une question à mon père pour vous. Vous avez tout à l'heure évoqué à propos de la résurrection présentée par Camus et ce qu'il en pense, le fait que depuis une cinquantaine d'années, l'Église évolue en fait sur l'immortalité de l'âme sans corporéité. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu cette évolution ?
Je crois que, de mémoire, en 1938, Camus a fait une enquête en Kabylie sur la misère qu'il avait constatée et dans les villages des montagnes de Kabylie. Et il y avait non seulement une description de cette misère, mais une mise en question des politiques de l'époque et de l'administration de l'époque et des responsables qu'il y avait en Algérie à ce moment-là, qui se désintéressaient totalement de ce qui se passait en Kabylie. Alors, est-ce que cette expérience a eu aussi une influence dans son itinéraire sur la souffrance et sur la question politique ?
Pas d'autres questions ? Alors, adjugé vendu, on prend ces 2 questions pour l'instant et prépare à la suite.
Première question, je vais être assez bref parce que, évidemment, c'est une question importante mais qui demanderait beaucoup de développement. Ce qui est en cause, c'est au fond l'évolution de l'eschatologie chrétienne. Il y a eu souvent, j'ai précisé au passage, hein, c'est pas forcément dans la théologie en général, hein, mais au moins dans la conscience commune d'un certain nombre de chrétiens à partir du Moyen-Âge, à l'époque moderne, il y a eu souvent une conception purement spiritualiste de l'au-delà. Voilà. Donc on concevait voilà, une pure et simple immortalité de l'âme. En ne prenant pas suffisamment au sérieux ce qui est quand même central dans la révélation chrétienne, à savoir l'espérance de la résurrection de la chair, résurrection des corps, résurrection des morts, comme dit le credo de Nice-Constantinople, ou résurrection de la chair, comme dit le symbole des apôtres. Et par rapport à cela, il y a eu effectivement, depuis quelques décennies, eh bien, Non pas, comme je le disais, un abandon de la croyance en l'immortalité de l'âme, mais on a remis au centre, justement, cette perspective de la résurrection de la chair, avec tout ce que ça implique. Ce n'était pas absent de la tradition ancienne. Déjà, Thomas d'Aquin disait « l'âme est la forme du corps », c'est-à-dire qu'il ne concevait pas l'âme comme complètement séparée du corps. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une tendance, souvent, à développer une conception purement spiritualiste de l'âme, et il y a un certain renouveau de l'eschatologie chrétienne depuis quelques décennies. J'ai cité Karl Rahner, on pourrait citer d'autres théologiens comme Moltmann ou Pannenberg, qui ont remis en évidence la position centrale, enfin la place centrale de l'espérance à la résurrection de la chair, ce qui implique une toute autre perception, évidemment, de l'au-delà en christianisme. Et notamment chez Rahner, ça s'exprime à travers son idée sur laquelle on ne peut pas simplement parler d'une âme séparée après la mort, mais que l'âme de celui, de celle qui est décédée, c'est l'âme de quelqu'un qui présentement a vécu en cette terre. Donc c'est une âme qui ne peut pas être conçue indépendamment de son lien avec la corporalité qui était la sienne au long de son existence terrestre. Je dis ça très rapidement.
Alors, je vais répondre. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Misère en Kabylie, ce sont une succession d'articles, je crois que qui sont parus dans le journal Alger Républicain, j'espère ne pas me tromper, où donc il a été, par l'intermédiaire de Pascal Pia, il est devenu journaliste jusqu'à ce qu'il soit exclu de ce journal, enfin en tout cas voilà, il défendait des positions qui n'étaient plus compatibles à partir de 1940 avec la politique, et vous avez parfaitement raison, c'est un très beau texte qui insiste sur la misère, et je disais tout à l'heure que la pauvreté n'est pas la misère, pour Camus c'est très clair, parce que là il décrit des enfants en haillons qui mange dans les poubelles, et quelqu'un lui dit mais c'est chaque jour comme ça, voilà. Il y a vraiment, on le voit d'ailleurs, il y a quelques images qui sont rapportées de cette région, et ces articles, et c'est tout à fait Camus, se terminent sur la beauté des paysages qu'il souligne tout en disant que c'est insupportable. C'est vraiment cet écartèlement entre la beauté et le malheur des hommes. Et ça, je crois que c'est tout à fait Camus. Voilà, c'est vrai que je n'en parle pas dans mon texte parce qu'il n'y a pas du tout de mention sur le christianisme. Je pense que c'est très important d'associer à ce qu'il dit en défense donc, de cette population kabyle, de rappeler qu'à peu près à la même période, un peu avant, Camus entre au Parti communiste algérien, et qu'il en est exclu un an et demi après, parce qu'il défend justement la dignité des musulmans, et que ça le sera, il sera exclu du Parti communiste pour avoir été trop sensible à la misère et à l'absence de droits des musulmans. Et vous avez raison, la politique coloniale est tout à fait dénoncée à travers ces articles en tout cas.
Alors.
Vous avez parlé des musulmans. J'aimerais savoir ce que vous pensez de son rapport à l'islam, parce que ce qui est frappant dans la peste, ce qui se passe à Oran, qui est quand même une ville musulmane, il n'a fait allusion à aucun musulman et à aucune mosquée. Et c'est ma première question. La deuxième question, c'est il y a une correspondance enflammée entre lui et Maria Cáceres. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose de tout à fait à part, ou est-ce que ça apporte quelque chose à la compréhension de l'œuvre ? En particulier, j'ai toujours été frappé par le fait que vous avez dit tout à l'heure qu'il refusait le mensonge. Et il lui dit sans arrêt, tu es la seule femme de ma vie, je n'aime que toi par-dessus tout. Et il a en même temps trois ou quatre maîtresses.
Est-ce que nous avons d'autres questions ?
Moi, j'aurais une question pour Laurent. Cette œuvre fondamentale, L'étranger, qui est tellement déconcertante, les contresens que l'on peut faire, les niveaux de l'interprétation. Voilà, est-ce que tu pourrais revenir sur cette œuvre, peut-être? Je ne sais pas si la question de l'éternité apparaît dans ce texte, c'est probablement ailleurs, mais voilà, je crois que ce serait utile pour nous tous.
On prend la troisième question et puis après vous répondrez à la...
Je voulais savoir d'où vient la sensibilité de Camus à l'histoire de l'art, et notamment au primitif italien. Est-ce qu'il s'en est tenu à cette période-là? Est-ce qu'il y a d'autres périodes qui l'ont intéressé? Parce qu'on nous parle toujours effectivement de ces deux tableaux, mais est-ce qu'il voit plus loin ou...
Oui, oui. Je vais commencer peut-être par répondre à votre question. Et ensuite à celle de Nori. Son rapport à l'art, effectivement, est extrêmement intéressant par rapport au primitif italien et par rapport finalement au grec, hein, la statuaire grecque. Parce qu'il pense qu'il y a une vérité de l'art qui a disparu, alors c'est un peu paradoxal, avec le sourire, par exemple, des statues. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est comme pour le silence, c'est l'impassibilité absolue. Hein. Et il y a une trahison de l'art lorsque cet art devient humain, trop humain, au sens nietzschéen. Je ne dirais pas qu'humain, hein. Humain, trop humain. Et pourquoi? Parce qu'il recherche une norme d'humanité au-delà, justement, de... l'apparence ou de l'expression. C'est-à-dire que, et c'est très intéressant avec sa mère, hein, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a toujours une trahison de l'humanité dans l'expression. Pour ça qu'il se défie aussi, on en parlera pour l'étranger, il se défie absolument du langage. Et dans l'art, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca, c'est parce qu'il n'a pas d'expression qu'il est intéressant. Hein. C'est-à-dire que la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a là une puissance de persévérance à vivre, hein, qui est une forme de résurrection. C'est la résurrection de la vie ici maintenant. Hein. Bon, donc, effectivement, le rapport qu'il a à l'art est philosophiquement extrêmement intéressant. C'est au moment où il écrit où l'on redécouvre Piero della Francesca, hein, c'est-à-dire c'est un peintre qui était quasiment inconnu au début du XXe siècle. C'est-à-dire il est redécouvert. Bon, il y a un très beau texte de Malraux sur Piero que Camus connaît. Donc il faut effectivement attribuer à son rapport à l'art, à sa propre méditation philosophique. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais donc je passe à l'étranger, parce que là, alors, c'est immense. Bon, l'étranger est sans doute le plus grand livre du XXe siècle. Bon, on sait que c'est le plus lu. Malheureusement, c'est le plus mal interprété aussi. Hein. Alors, je crois que... insister sur la figure du Christ, ça donne quelques pistes, puisque, comme vous le savez, Meursault est condamné pour ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère, mais il a tué quand même un homme, et d'ailleurs ça permettra de répondre peut-être aussi, mais en filigrane, sur la question du musulman, puisqu'il a tué un arabe. Hein, et que cet arabe est absent du texte. Il l'a tué par hasard. Mais est-ce que cette absence, c'est souvent ce qu'on a dit, montre que Camus rejette ou méprise justement les musulmans, ou bien totalement l'inverse? Est-ce que le livre n'est pas assez intelligent pour, dans son écriture même, montrer l'exclusion? C'est-à-dire, le livre l'exclut, effectivement, cet arabe. Il est anonyme. Mais le livre dit la réalité, la vérité, et la vérité du colonialisme. Vous voyez ? Donc, Et d'ailleurs, cet arabe, c'est le quatrième élément, le cinquième élément de la nature. Souvenez-vous, tout le monde connaît l'étranger. Le matin du crime, vous avez l'unité avec le monde, la terre, l'eau, le feu et l'air. Hein, c'est-à-dire chaque élément est décrit comme une communion ou une communication avec le monde et avec Marie. Plus Marie. Marie, naturellement, elle ne s'appelle pas Marie par hasard. Sa mère est le Christ. Hein. L'après-midi, c'est le crime. Tous les éléments de la nature se tournent dans le négatif. Hein. C'est-à-dire, il y a le déchirement et il y a l'arabe. C'est-à-dire, c'est le cinquième élément qui empathie absolument, c'est-à-dire qui va être la victime hein, de cette journée, mais qui exprime aussi, à ce moment-là, la déshumanisation radicale, contrairement à ce qui s'était passé le matin. Pourquoi ? Parce que le matin, on est dans la communion avec la nature. Bon. Une forme de divinité, comme Camus lui-même le dit, et avec Marie, hein, la mère du Christ. L'après-midi, on est dans le divorce radical. Hein. Et il y a la victime absolue. Effectivement, c'est un arabe. Je pense que ça dit beaucoup sur l'idée qui se fait de la colonisation, qu'il a combattue en permanence, c'est-à-dire cette négation absolue, qui n'est pas du tout de sa part un mépris, mais qui est au contraire le dit de la vérité. Et cette vérité, elle se dit toujours dans le silence. Donc elle se dit de manière très très indirecte. Alors, en ce qui concerne, je dis quelques mots encore, le Meursault est un... Bon, Camus dit c'est le seul Christ que nous méritions, mais il faut penser, premièrement, qu'il part d'un Christ qu'il a lu chez quelqu'un d'autre. Alors, on en a peu parlé, c'est chez Nietzsche. Nietzsche a écrit l'Antéchrist. Et quand on lit l'Antéchrist, il y a aussi un Christ que Nietzsche vénère d'une certaine manière. Hein. Seulement, c'est un Christ un peu particulier, c'est un Christ bouddhiste. Hein. Et chez Nietzsche, il y a des stades du nihilisme. Et le Christ de Nietzsche, c'est le dernier stade du nihilisme, c'est-à-dire l'amour, mais un amour en quelque sorte de faiblesse face à la souffrance du monde. Et ce qui se passe d'intéressant dans l'étranger, c'est qu'on part de cette image du Christ, qui est celle de Meursault, effectivement, et que cette image va muter, elle va devenir de plus en plus positive. Justement, au moment, alors c'est une confrontation avec le christianisme, où il rejette le prêtre, il va se réveiller avec des étoiles sur le visage, etc. Bon, c'est-à-dire qu'on va passer d'un Christ qui devient de plus en plus le sage lucide sur le malheur du monde. Hein, et, bon, on peut dire aussi sur la manière dont les hommes font leur propre malheur. Hein, et c'est pour ça que la fin de l'étranger se termine paradoxalement et qu'il m'accueille avec des cris de haine. Hein, puisque ce sont les hommes, bien sûr, qui se sont éloignés infiniment de la vérité. Quant à ce Christ-là, effectivement, et il passe de, je dirais, du stade terminal du nihilisme au sens nietzschéen à une résurrection, hein, parce que finalement, dans l'étranger, Meursault ressuscite à lui-même, à la fin du texte, il est comme le Christ ressuscitant de Piero della Francesca, c'est-à-dire qu'il a une lucidité radicale sur le monde, mais c'est un monde, effectivement, où les hommes font leur propre malheur. Donc il y a une lecture de l'étranger qui passe nécessairement par le Christ, qui... est une méditation sur une vérité du silence, donc sur le silence de sa mère, sur l'amour qu'il a de sa mère, alors qu'on le condamne pour ça, mais sa mère, comme Marie, font partie d'un ensemble plus vaste qui est l'amour de toute chose et de toute singularité à travers tous les éléments de la nature. Et c'est comme cela que se termine l'étranger, alors qu'il y a une masse d'hommes qui sont en dehors de cette vérité, et c'est pour ça qu'ils meurent, voilà. Bon, de manière christique. Bon, mais je ne peux pas aller plus loin que cela.
Je vais peut-être répondre rapidement à propos de l'islam. Il y aurait beaucoup de choses à dire, Laurent l'a dit, mais c'est un des grands reproches qu'on fait à Camus. Plusieurs reproches, de ne pas avoir pris clairement parti pour l'indépendance et soutenu le FLN, alors il faut savoir quand même qu'il soutenait Messali Hadj, donc un autre courant qui espérait encore pouvoir faire vivre des communautés. Et puis il est mort en 60, voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on lui reproche d'être resté effectivement colonialiste, en tout cas ce qui est faux quand on relit les Misères en Kabylie, mais aussi un certain nombre d'autres textes. Alors vous avez raison, il n'y a rien dans La Peste de significatif, il n'y a pas beaucoup plus de présence féminine d'ailleurs, mais si vous lisez La Femme adultère, je crois qu'il y a un musine, il y a le chant du musine, et il y a vraiment quelque part la présence musulmane qui est honorée, et dans d'autres, dans différents autres textes aussi. Après, ça fait partie effectivement des, je pense, de cette vérité du colonialisme que Camus refusait, puisqu'il demandait très tôt, il a demandé des droits pour les musulmans, enfin pour les arabes. Juste sur la sur la relation avec Maria Cazares et le mensonge, je consacre quand même mon dernier chapitre sur l'amour à essayer de... Alors, je ne vais pas blanchir Camus dans sa morale conjugale, ce n'est pas du tout mon objet, mais au moins, je montre qu'il est beaucoup plus cohérent. Et justement, il dit dans les lettres à Maria Cazares qu'il ne sait pas mentir. Il ne sait pas mentir. Donc, bien sûr qu'il a eu d'autres femmes. Je vois que vous souriez, donc je ne vous convainc pas, Paul. Je le regrette. Non, lisez, puis on en reparle, si vous voulez. Moi, encore une fois, je ne cherche pas à l'exonérer. Il a aimé trois femmes en même temps, peut-être quatre, si on rajoute Francine, c'est beaucoup. Je pense qu'il y a pire crime dans la vie, si vous voulez mon avis, surtout quand ces femmes étaient consentantes et voilà. Et heureuse d'être aimée par Camus. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais juste dire qu'effectivement, il a dit à Francine sa relation avec Maria Cazares. Il ne lui a pas caché. Et il raconte tous ses tourments. Il n'était pas du tout fier de cette vie qu'il menait. Il y a quand même quelques passages que je n'ai pas abordés, d'ailleurs, parce que j'allais m'embarquer sur un terrain glissant. Mais dans les carnets, il y a pas mal de textes sur la chasteté. Voilà, ça sera pour un autre livre.
Un mot sur la colonisation. Camus s'est toujours battu contre la colonisation. Effectivement, il n'était pas pour l'indépendance parce que, tout simplement, il réclamait des droits égaux, ce qui était absolument impensable. Hein, c'est-à-dire, hein, comme on le sait, la révolte, c'est d'être traité en égal. Hein, c'est dans l'homme révolté. Et il réclamait ses droits. Alors, il est passé par des phases où il a adhéré au projet Violette pendant le Front populaire. Bon, Véronique l'a dit, il s'est senti trahi par la politique aussi bien de la France que par le Parti communiste sur ces questions, toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'il envisageait que la France et l'Algérie pouvaient vivre ensemble dans un même pays. Et il est allé jusqu'à penser, ce qui est inimaginable, que la France devait se révolutionner profondément pour que l'Algérie reste française. Hein, c'est-à-dire, il ne pensait pas que l'Algérie pouvait rester ce qu'elle était coloniale. Il pensait qu'il devait y avoir un parlement algérien en France qui représenterait à égalité l'Algérie. Bon, c'était des choses, naturellement, que les Français de l'époque, majoritairement, n'imaginaient même pas. Donc, c'est-à-dire que quand on critique, ce qui est légitime, l'idée d'un Camus qui ne souhaitait pas l'indépendance, il faut penser en même temps ce qu'il souhaitait, qui était une véritable révolution dans laquelle l'Algérie devenait dans une fédération, non pas un État en État, mais à égalité avec une assemblée dans l'État français. Mais un État français qui devait totalement se transformer. Bon, et dernier point, finalement, il était sur la position gaulliste à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait effectivement soutenir le référendum pour savoir si on laissait ou pas, si les Algériens voulaient ou pas l'indépendance. C'est-à-dire, il a finalement accepté. Que, bon, il est mort juste avant, hein. Mais il a accepté, bien sûr, le référendum. Voilà ce que l'on peut dire. Mais effectivement, il était tellement profondément lié à l'Algérie, non pas en tant que colonialiste, mais à ce pays et à ses gens, qu'il envisageait une transformation de la France à partir de l'Algérie. Ce qui, naturellement, ne laisse pas penser qu'il voulait garder l'Algérie coloniale.
On peut ajouter que c'est l'esprit méditerranéen qu'il a cherché sans arrêt à promouvoir et qui le guidait, parce qu'il pensait qu'on avait besoin, y compris en France, de cet esprit de midi plus que de l'esprit de minuit marqué par la philosophie allemande. Voilà.
Alors, on a encore un peu de temps. Alors, nous avons une question là. On a aussi une question qui est arrivée par les voies virtuelles. Donc, on va prendre les trois.
J'avais une question plutôt d'actualité, donc peut-être un peu spéculative. Mais on a parlé de solidarité humaine et je voulais savoir quels pourraient être des arguments camusiens contre les textes sur la fin de vie. Oui. Je voudrais savoir si vous avez des arguments camusiens reposant sur la solidarité humaine contre les textes sur la fin de vie.
Merci pour ces perspectives passionnantes. Alors, j'ai pas encore lu ton livre. Je viens de l'acheter, mais je voulais soumettre une idée ou plutôt un étonnement qui concerne la biographie d'Albert Camus. On sait que dans les années 42, il a passé quelques mois au Chambon-sur-Lignon. Autour de lui, dans les fermes, les portes s'ouvraient par une communauté chrétienne protestante pour accueillir des juifs, notamment des enfants. C'est le pasteur André Trocmé, sa femme Magda, le pasteur Thiès. Et je suis étonnée de ce point de contact biographique entre l'histoire d'une traversée, il est malade, il doit se soigner, et puis et la grande histoire. Le plateau du Chambon a été reconnu comme au titre du collectif comme étant juste parmi les nations. Est-ce qu'on a des indices dans les textes de Camus de son séjour et qu'est-ce que tu en penses personnellement?
Alors, la question qui nous est venue là par écran interposé, pouvez-vous revenir sur le saint laïque? Véronique, je crois que la question s'adresse à toi, tu as parlé du saint laïque. Pas d'autres questions?
Ne veut répondre sur la fin de vie, Michel, non?
Bon.
Et de me lancer. Franchement, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce que Camus pourrait dire sur ces questions. Et je rappelle qu'il est mort en 1960. Donc, vous voyez, je pense que le rapport à la vie ne se posait pas du tout de la même façon. Ouais. Donc, vraiment, ni sur le début de la vie, ni sur la fin de la vie, je vois quelque chose qui pourrait aller dans,
vous apporter quelque chose. Très honnêtement, je suis désolée. Alors, sur le Chambon-sur-Lignon, il y a beaucoup à dire, enfin beaucoup. J'exagère. Il y a une très belle bande dessinée de quelqu'un qui est camusien, reconnu, authentifié. Et d'ailleurs, cette bande dessinée est préfacée. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, c'est à la fois une bande dessinée avec beaucoup de textes de Jacques Ferrandez. Et c'est préfacé par Catherine Camus, la fille d'Albert. Et c'est intitulé Camus chez les Justes. Et donc, on revient sur ces trois séjours, je ne sais plus si c'est trois ou quatre, mais en tout cas, il y a au moins trois séjours au Chambon, dont un très long, le premier, où il est bloqué d'ailleurs, mais il y va, je rappelle, hein, pour des raisons médicales, pour soigner ses poumons, puisque jusqu'à presque la fin, il a cru qu'il allait mourir rapidement, et il a vraiment été vraiment empêché parfois de travailler. Il disait d'ailleurs que quand il ne pouvait plus travailler, il lisait Nietzsche, qu'on a retrouvé dans sa sacoche. Donc voilà, ça faisait partie de ceux qui lui donnaient cette surabondance de vie. Moi, je suis très touchée parce que en lisant La vie de Camus, cette épreuve qu'a rappelé Michel, juste après son prix Nobel, hein, où il est totalement en crise de panique, d'étouffement, il n'y arrive plus physiquement et il doute de tout parce qu'il n'a plus la capacité d'écrire. Vraiment, alors, il le trouve du côté de la Grèce, du côté du soleil, de cet esprit méditerranéen, mais aussi, effectivement, il parle de son couvent intérieur. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport à la vie que je trouve extrêmement bouleversant. Alors, pour en revenir au Chambon, donc, vraiment, je renvoie sur cette belle... Et j'en parlais d'ailleurs d'une interview à la Présence protestante, parce que... Ils m'indiquaient qu'ils avaient été au Chambon, qu'ils avaient visité, qu'ils avaient été très, très touchés, très marqués par tout ce que tu rappelles, hein, le pasteur Trocmé, enfin, cet engagement des personnes qui ne savaient pas qui ils accueillaient, qui ne demandaient pas quelle était la religion, enfin, vraiment l'hospitalité telle qu'on pourrait encore la rêver aujourd'hui. Et en fait, Camus n'en parle pas. Il ne parle, il écrit à Maria Cazares depuis Chambon sur Lignon. Étrangement, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que depuis Chambon, il dit que leur amour est passé de l'amour d'orgueil blessé à l'amour don. Mais il ne parle ni des justes, parce qu'on sait qu'il y avait même des Allemands. Je crois que certains enfants jetaient des boules de neige sur les sentinelles allemandes. Enfin. Il y avait un risque colossal quand même, hein, il faut le reconnaître. Voilà, alors il se trouve qu'il était au Panelier, c'est un petit hameau qui est un tout petit peu en dehors, il faut que j'aille le site, mais je suis très étonnée, et c'est vraiment un mystère, hein. D'ailleurs dans cette BD, il raconte qu'il y a une frustration qu'il n'ait pas pris position. Je précise quand même que lorsqu'il est au Chambon, au moins pour la deuxième fois, c'est là qu'il entre dans la résistance, il va faire plusieurs allers-retours, soit à Saint-Étienne et puis à Lyon, et c'est là qu'il va rencontrer son ami René Lénaud. Je ne peux pas terminer cette soirée sans citer René Lénaud, pour qui j'ai une affection extrême, catholique, son ami catholique, hein, qui va lire le mythe de Sisyphe en lui disant que lui, il a fait le saut, hein, qui est critiqué dans le mythe de Sisyphe, et que c'est là qu'il dit qu'il admire sa disponibilité, parce qu'il n'a pas fait le saut, il reste dans une disponibilité. Et cette relation est extrêmement forte, je pense qu'elle a marqué Camus vraiment jusqu'au bout, sachant que René Lénaud va mourir fusillé par les Allemands en 1944. Voilà, donc désolée de ne pas pouvoir éclairer davantage sur le Chambon, on aimerait. Peut-être que vous avez des indices.
Non, effectivement, tout ce que vous avez dit... est tout à fait vrai. On n'a pas de référence. Seulement, enfin, vous avez rappelé que c'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans la résistance. Et c'est à ce moment-là aussi où il y a quand même un changement de manière de penser. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'œuvre de Camus est un long fleuve tranquille, comme on dit. Hein. Non, il y a des mutations. Dans sa pensée, et il se confie à son ancien professeur Grenier, dans une lettre où est en question la philosophie de l'absurde. Hein. Donc c'est très intéressant par rapport à ce que vous avez rappelé, par rapport à l'entrée dans la résistance, que c'est également le moment où Camus réfléchit de manière critique sur la philosophie de l'absurde. Et il y réfléchit justement en fonction de la question de la solidarité et de la communication par la douleur du semblable, etc. C'est à ce moment-là que pour lui, contrairement à ce que disait Meursault, tout ne se vaut pas. Hein, donc on en vient sur la question de la valeur, hein, comment elle se construit, et que de ce point de vue, il faut construire une éthique pour notre temps. Donc je crois que ce moment-là sur lequel vous avez voulu revenir est extrêmement important dans l'œuvre. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à écrire aussi les lettres à un ami allemand. Ce sont des lettres à un ami fictif, hein. À ce moment-là, c'est le nazi, hein, qui est en face. C'est intéressant parce que ces lettres partent de « nous avons un principe commun, nous et l'ennemi allemand ». Et ce principe commun, c'est que comme Nietzsche, nous ne croyons pas à la signification du monde. Hein. Mais à ce moment-là, il y a des pistes différentes. Et moi, je n'en tire pas ce que vous en tirez, le désespoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a aussi une critique d'une certaine interprétation de l'absurde et de la philosophie de l'absurde. Donc c'est vraiment un moment charnière extrêmement important.
Alors, je te rappelle la question. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur le saint laïque ? Excuse-moi, je rajoute ma propre question. Tu nous dis que Camus se refuse d'être un saint laïque, aussi apparemment d'être un mystique. Donc, est-ce que tu pourrais aussi nous parler du Camus mystique ou non mystique ? Vous n'avez pas entendu ? Alors, donc la question, c'est Véronique a évoqué le saint laïque chez Camus. Et moi, j'ai rajouté la mienne, il y a le Camus mystique aussi. Je voudrais bien que tu nous parles des deux.
Oui, alors l'expression saint laïque qui a été après repris en tant que moquerie à l'égard de Camus, vous savez, morale de la Croix-Rouge, une belle âme, un saint laïque, ça lui a été même opposé. Ça figure dans La Peste et c'est utilisé par Tharoux en particulier. Donc l'ami de Camus avec qui il prend un bain de minuit. Dans ses carnets, on voit bien qu'à la fois, il est à la fois attiré, il le dit, par ce besoin de perfection qui va jusqu'à la sainteté, et en même temps, il le dit d'ailleurs clairement, qu'il est admiratif. La force de Camus, je trouve, c'est cette puissance d'admiration pour Jean Grenier, pour son instituteur. Enfin, c'est quelqu'un qui admire et lui se dit non admirable, en tout cas. Et il dit qu'il admire les grandes ou belles âmes, mais qu'il n'en est pas une. Donc, ce saint laïque, et voilà, on le voit bien dans la chute, hein, il y a quelque chose, même s'il se défend d'être assimilé à Clamence, Jean-Baptiste Clamence, on retrouve encore une fois Jean-Baptiste qui clame dans le désert. Mais ce saint laïque, c'est pas quelque chose qu'il prend pour lui. Enfin, je crois vraiment qu'il a une telle humilité, et peut-être pour revenir à la question conjugale ou séductrice, il a une telle conscience de ses fautes ou de ses erreurs qu'il reconnaît clairement, hein, qu'il confesse même à la fin de sa vie à l'égard de Francine, pour lui c'est impensable d'être assimilé à un saint laïque ou pas. En tout cas, ça ne peut être que laïque puisqu'il est incroyant. Voilà, j'espère avoir tout dit sur le saint laïque. Je reviens sur la question de la mystique. Alors, lui ne se dit ni mystique ni pas mystique. Enfin, je veux dire, j'ai repris des traces mystiques, effectivement, parce que dans les tout débuts des écrits non publiés, enfin inédits, même si on les retrouve dans les essais, il s'intéresse à la mystique très très tôt. Il lit des ouvrages de mystique. Et comme vous l'avez rappelé, ce qui est très surprenant, c'est que dans ses carnets, il va lire le journal spirituel et non pas. Alors, dans les carnets 3, c'est marqué les exercices spirituels. À croire que le traducteur ne savait pas faire la différence entre le journal spirituel, le journal d'émotion, et les exercices spirituels. En fait, il fait allusion aux exercices spirituels et je suppose que Georges Didier, qui était encore une fois son ami au lycée Bugeaud d'Alger, dont il parle dans le premier homme, en le citant, alors là, pour une fois, avec son vrai nom, parce que souvent, il donne d'autres noms, mais là, il parle vraiment de Georges Didier avec une affection. Et puis, vraiment, Michel l'a rappelé, cette lettre écrite au supérieur est en parfaite vérité. Enfin, moi, je crois quand même que c'est un homme qui... Peut-être qu'il ment, mais qu'il n'aime pas mentir. Il dit qu'il peut mentir par omission ou pour des détails. Voilà. Bon. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. En tout cas, sur la question mystique, ce que j'ai essayé de démontrer avec beaucoup de prudence, je l'espère, c'est qu'à la fois, il y avait une attirance pour la mystique comme un absolu. Et notamment, moi, ce qui m'a profondément troublée, je serais intéressée de savoir ce qu'en pense Laurent, mais c'est qu'on le voit dans le mythe de Sisyphe. Qui est quand même le dernier lieu où on pourrait parler de mystique. Et c'est là qu'il va parler de Silésius. Vous savez, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne se soucie pas d'elle-même, elle ne voit pas qu'on la regarde. Quand même étrange qu'il parle de mystique silésienne. Et puis, ça revient au moins à deux reprises. Et puis, il dit qu'en fait, à partir de la guerre de 14 et des tranchées, à chaque violence dans les tranchées, l'Éternel perdait la partie. Comme si, jusque-là, jusqu'à la guerre de 14, on pouvait encore espérer que la prière sauverait quelque part ce déchaînement de violence, qu'à partir de là, ça ne suffit plus. Et donc, j'ai essayé de pister tout ce qui avait un rapport avec la mystique. Et je crois qu'il y a quand même des traces mystiques. Mais évidemment, si on définit le mystique tel qu'on le fait habituellement, c'est-à-dire celui qui rencontre Dieu, comme Simone Veil. Et Simone Veil fait partie, je le rappelle, des deux figures qui ont le plus marqué Camus, c'est-à-dire les deux figures sont René Char, qui était encore vivant, et Simone Veil, qui l'a édité, bien sûr. Et c'est une mystique, et ça c'est incontestable. Donc voilà, simplement pour dire que je pense qu'il a eu presque une tentation mystique qui serait à relier avec le besoin de solitude, besoin de création, et que pour être solidaire, je pense qu'il a conservé ce désir, mais il est resté solidaire d'abord. J'ajoute juste pour la question de Béatrice, il n'y a pas que les primitifs italiens, parce qu'il parle beaucoup de Van Gogh. Et je pense que... Et il parle de Mozart, il parle... Enfin, je veux dire, son rapport à l'art est très important, notamment dans L'Homme révolté. Hein. C'est très important. C'est là que, quelque part, il y a une forme de salut, de transcendance vivante. Hein. C'est à propos de l'art, je crois.
Oui. Je ne m'engagerai pas... sur un terrain que je connais guère, hein, celui de la mystique. Non, mais je rappellerai simplement, curieusement, on n'en a pas parlé directement, mais Camus dit qu'il a le sens du sacré. Hein. Donc, ce n'est pas de la mystique, mais il pense justement qu'il y a un sacré. Alors, quand je parlais de ces visages sans sourire, c'est ce qu'il cherche aussi. Hein, c'est-à-dire, un au-delà... du principe de plaisir, je dirais. Et il ne trouve pas la mort, il trouve ce qu'il appelle le sacré. Hein? Donc il fait référence au fait antique, hein, au fait du sacré antique. Et je pense alors, puisque Véronique m'a tendu la main de la transcendance vivante, je pense que ce qu'il tente de cerner à travers le sacré, c'est effectivement ce qui est vivant, mais, et c'est pour ça qu'il parle de transcendance, ce qui est vivant justement sur un plan horizontal. Hein, c'est un peu un paradoxe, parce que parfois, il a ces deux formulations. Hein, ou transcendance vivante, ou transcendance horizontale. Alors, il faut bien se représenter qu'à l'époque, l'immanence, bon, l'inverse de la transcendance, l'immanence était identifiée du côté du matérialisme, c'est-à-dire de la lecture de Hegel, de la lecture matérialiste de Hegel par Alexandre Kojève, par exemple, hein, dans les années 33, 38, 39. Donc, un moment philosophique très important pour la France, puisque c'est l'introduction de Hegel à travers Coiré et Kojève. Mais c'est un Hegel lu à partir de Marx. Et donc, ce qu'on appelle l'immanence, c'est justement cette matérialité de l'histoire, de l'esprit dans l'histoire qui se développe. Et Camus déteste absolument ça. Et il veut se retirer de cela. Et pourquoi ? Parce que l'immanence, à ce moment-là, apparaît pour lui comme ce qui écrase la réalité dans toute sa diversité, dans toutes ses singularités. Et c'est pour ça qu'à travers la notion de transcendance, je ne pense pas qu'il cherche une transcendance de nature théologique, hein, mais peut-être je me trompe, mais je pense qu'il cherche à dire la vie se soulève, à partir de cette horizontalité, la vie peut se soulever. C'est tout le problème de la transfiguration, c'est-à-dire, pour lui, finalement, d'une vie qui est capable de se soulever et de se diviniser d'une certaine façon et de toucher au sacré par la même. C'est-à-dire, il se passe quelque chose. Tandis que l'immanence, telle qu'on l'entendait à l'époque, lui paraît très écrasante. Et c'est pour ça qu'il ne reprend pas la notion. Et qu'il essaie de trouver quelque chose entre transcendance horizontale, transcendance vivante. Alors, il est évident que c'est très christique. Transcendance vivante, on ne peut penser qu'au Christ. Mais le Christ, vu que c'est un Christ qui ne ressuscite pas, au fond, c'est la vie qui est devenue christique pour lui. Et c'est la vie en tant qu'elle peut se soulever, en tant qu'elle peut s'affirmer, alors bon, ça serait un peu nietzschéen, en tant qu'elle peut se transfigurer. Hein, c'est-à-dire que l'homme, hein, justement, ne reste pas humain, trop humain. Hein, c'est cette idée, au fond, qu'il y a du sacré. Hein, et que le sacré est au-delà toujours de la vie ordinaire, courante, etc., c'est-à-dire de la vie absurde. Il y a un sacré qui soulève la vie. Alors, est-ce que ce sacré est religieux ? Bon, naturellement, il interroge la religion. Mais pour Camus, il le repère depuis les Grecs. Enfin, ce sacré, c'est quelque chose qu'il repère depuis les mystères du sacré chez les Grecs.
Bon, je crois qu'il est temps d'obéir à l'injonction du père de Camus. Hein, un homme, ça s'empêche. Nous allons nous empêcher de continuer plus tard. Et donc, je vous remercie encore tous les trois pour cette belle soirée.